France Inter, le 18-20.
La réforme des retraites, c'est notre thème ce soir au téléphone sonne. Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire chargé de ce dossier, multiplie en ce moment les rencontres avec les syndicats et le patronat. Objectif, définir l'architecture du futur dispositif et ses grands principes. Emmanuel Macron, durant sa campagne électorale, promettait cette réforme, déclarant « Il faut un système universel où chaque euro cotisé donnera les mêmes droits à tous. Il veut un système beaucoup plus transparent et équitable. » Il n'y aura plus de régimes spéciaux, affirme le président. Le but, c'est que la loi soit votée en 2019, après donc une longue concertation. Un dispositif de consultation et de participation citoyenne sera lancé mi-mai sur Internet via le site participer.reforme-retraite. Nous avons besoin de l'intelligence de tous, dit Jean-Paul Delevoye. Eh bien, on va commencer ce soir. Nous attendons vos questions, vos remarques, vos suggestions sur ce futur système unique censé remplacer la quarantaine de régimes de retraite existants actuellement. Le standard 01 45 24 7000 et bien sûr franceinter.fr.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Ah non, elle est en vacances, elle sera là dans une semaine. Au téléphone sonne, premier appel, c'est Gérard qui est en Dordogne. Bonsoir Gérard.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien écoutez, quand vous entendez maintenant le mot réforme français, vous pouvez trembler. Car toute réforme est en fait une régression. La secte libérale va s'attaquer à vos droits sociaux les uns après les autres. J'en veux un exemple très concret. On va nous dire la fonction publique. Que vous êtes privilégié. Vous avez 75% de votre pension lorsque vous êtes à la retraite par rapport à votre revenu en activité. Malheureusement, c'est faux. Là aussi, c'est une imposture totale. J'étais haut fonctionnaire. Je suis actuellement à la retraite. Et je peux vous dire que je perçois 60% de mon revenu d'activité. Pourquoi ? Parce que les fonctionnaires, et notamment les hauts fonctionnaires, perçoivent énormément de primes qui ne comptent pas dans le calcul de leur pension de retraite. Donc, on va vous raconter, comme on raconte pour tout le reste, les uns après les autres, que nous sommes les uns comme les autres tous des privilégiés, pour en fait remettre en cause tous les droits sociaux, tous les droits acquis les uns après les autres. Alors, ne vous inquiétez pas, étudiants, cheminots, chômeurs, retraités, vous êtes tous des privilégiés. Il n'y a guère que les oligarques, qui eux, ne le sont pas, et qui sont pourtant les seuls, avoir leurs revenus augmentés de 30 ou 40% par an. Alors moi, je dénonce cette imposture et je dis que c'est lamentable de raconter que dans la fonction publique, on est privilégié, ce qui est faux, faux, faux.
Et sur le principe de cette réforme des retraites, Gérard, vous êtes également très critique lorsque le président dit qu'il faut un système universel où chaque euro cotisé donnera les mêmes droits à tous.
Eh bien, moi, j'y serais très favorable. Je vais vous dire une chose, je suis pour l'égalité, je suis pour la justice sociale. Mais ce que je voudrais, une fois pour toutes, c'est qu'on l'aligne sur le haut et non toujours sur le bas. Parce que le mot réforme, c'est toujours, dans un même sens, c'est diminuer les droits des uns et des autres. Et tout s'y passe les uns après les autres. Donc, si vous n'êtes pas fonctionnaire, rassurez-vous, vous y passerez aussi. Vous serez un jour les privilégiés pour ceci ou pour cela, et on vous alignera toujours sur ce qu'il y a de plus bas. Alors moi, je suis pour que tout le monde, en effet, touche 75% de son revenu à la retraite. C'est ce qui me paraîtrait équitable pour tous, mais qu'on aligne vers le haut et pas vers le bas, ce qu'on fait systématiquement.
Merci Gérard pour ce début d'émission avec ce réquisitoire, ces propos plutôt négatifs pour réagir. Nos invités ce soir dans ce studio, Éric Ayer qui est docteur en économie, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. L'OFCE c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Nicolas Bavrez, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, essayiste, auteur d'un livre qui est paru il y a quelques semaines, Violence et passion, défendre la liberté à la L'âge de l'histoire universelle aux éditions de l'Observatoire. Vous avez entendu ces propos de Gérard qui ne croit pas à une réforme qui va nous amener vers le haut, mais plutôt vers le bas. Nicolas Bavrez.
Je crois qu'il y a un point qui est très important, c'est qu'il ne faut pas poser le problème des retraites en termes de privilégiés ou des uns ou des autres, et donc l'aborder soit par les régimes spéciaux, soit par uniquement la fonction publique. Je pense que ça n'est pas le bon système. La difficulté est la suivante. On a créé en 45 ce régime de retraite qui est un élément fondamental du pacte social, avec d'un côté un régime de répartition et de l'autre côté, vous l'avez rappelé, une quarantaine de retraites qui sont fonction des professions. Ce système a permis de réduire la pauvreté des personnes âgées qui était très importante auparavant, puisque avant 45, généralement, la première source de pauvreté, c'est quand on était vieux, on ne pouvait plus travailler et on n'avait pas de ressources. Mais il est vrai que ce système actuel pose un problème de soutenabilité démographique, puisqu'on avait trois cotisants pour un retraité dans les années 70. On a aujourd'hui 1,3 cotisants pour un retraité. Ensuite, on a un problème financier parce que d'un côté, ce système est en déficit, il est financé par la dette, donc une partie des pensions est aujourd'hui sera payée par les petits-enfants des gens qui sont retraités. Et puis, on a quand même un problème d'inégalité. Inégalité en termes d'espérance de vie, entre un cadre et un ouvrier, il y a 6 ans d'espérance de vie. Et puis, effectivement, suivant ces régimes. Donc, c'est pour ça qu'il est légitime qu'on s'interroge en tout cas sur une retraite. Et sur l'idée d'avoir un système qui soit plus soutenable et plus transparent.
Éric Heyer.
Alors moi je mettrais quand même des bémols parce que il y a un problème justement de est-ce que c'est soutenable d'un point de vue financier, mais alors ça il y a eu des réformes depuis 1993 sur qu'on appelle des réformes paramétriques et donc on a essayé de jouer ce qu'a dit Nicolas Bavrez sur à la fois la durée de cotisation, l'âge de légal pour partir à la retraite, également les pensions, donc on a désindexé les pensions sur la productivité pour le mettre sur les prix, donc on a fait des réformes pour justement rendre le système financier relativement soutenable, et c'est ce que nous dit à peu près les rapports, c'est que effectivement c'est pas complètement équilibré, mais on n'est pas non plus dans une dérive. Il y a eu des réformes, il faut peut-être aller un peu plus loin. Ce que propose le gouvernement et Emmanuel Macron, c'est pas du tout le rendre plus soutenable ou pas, c'est d'essayer de le rendre plus juste et plus équitable. Alors donc c'est une autre logique, donc là c'est une réforme qui est plus paramétrique mais systémique. Et donc là, l'idée, c'est mais qu'est-ce que ça veut dire la justice ? Enfin bon, ça a été dit un peu par votre auditeur, c'est-à-dire je pense qu'aujourd'hui, pourquoi c'est utile, contrairement à ce que disait votre auditeur, c'est parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. C'est qu'effectivement, on a toujours l'impression que les autres sont avantagés par rapport à nous et que dans ces 42 régimes spéciaux, on n'a pas la chance d'y être et donc il faudrait les abolir. Alors que effectivement, votre auditeur avait raison. Il y a des études qui sont sorties en 2017, qui montrent que effectivement, le régime des fonctionnaires est pas plus avantageux que le régime du privé. Mais ça dépend. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des cas, il faut...
Alors si on fantasme, dire que... Il y a des inégalités ou pas?
Oui, il y en a, mais c'est pas. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs et que, alors que non, c'est pas toujours le cas. Et dans la fonction publique, des fois, il y en a qui sont un peu plus avantagés que d'autres. Et de temps en temps, le régime est plus avantageux pour la fonction publique, mais des fois, c'est dans le privé. Donc, que l'on mette tout ça à plat, ça me semble être utile. Et effectivement, que ensuite, une fois qu'on a mis tout ça à plat, qu'on remette plein de différences, parce qu'il faut pas se leurrer. Hein, un régime universel, ça veut pas dire qu'on sera tous logés à la même enseigne. Non, on va incorporer ensuite beaucoup de différences. Les différences, vous voyez, quand vous êtes mère au foyer, enfin, quand vous avez élevé vos enfants, combien de trimestres vous avez droit, en fonction de la pénibilité, en fonction de votre espérance de vie. Donc on va retrouver un peu ces régimes spéciaux, mais dans le cadre d'un régime un peu plus universel, et ça sera discuté. C'est pour ça qu'il ne faut pas se leurrer, ça ne prendra pas un an. Vous voyez que les Suédois qui sont passés par là, ils y ont réfléchi pendant 5 ans, et après la mise en application, ça a été pendant 15 ans. Donc vous voyez, ça se fait petit à petit, parce que c'est pas si évident que ça, parce qu'on est plus dans du paramétrique, mais on est bien dans du systémique, donc c'est plus la soutenabilité qui compte, c'est une sorte de justice, mais la justice, vous voyez, c'est pas simple.
Beaucoup de questions sur le site de l'émission, des questions pratiques, même si actuellement il y a une concertation, donc des décisions n'ont pas été prises encore, on nous demande, la pénibilité sera-t-elle toujours prise en compte ? Nicolas Bavrez.
Alors, ça va être l'objet des discussions, puisque pour l'instant, donc dans ce qui est envisagé, on pourrait d'une certaine manière conserver une partie de ces différents régimes. Simplement, la version minimale, ce serait d'adosser le tout au régime général. Ça, c'est un peu ce qui a été fait, par exemple, pour le régime de ce qu'on appelle les IEG, c'est-à-dire ce qui concerne le secteur de l'énergie et de l'électricité. Ça serait la version minimale. Il y a une autre version qui est la version du passage à une retraite par points. Donc ça, si on prend, ça peut être une version assez maximale, puisque dans le système de la retraite par points tel qu'il fonctionne, par exemple, en Suède, on prend le résultat des cotisations de l'année, le nombre de points qui sont à la disposition de la population, et à partir de là, il y a une valeur du point, et on sert les retraites. Mais ça veut dire que si l'économie décroît, la valeur du point décroît, et les pensions de retraite avec elle. Puis un troisième système, c'est un système compliqué, ce qu'on appelle le système notionnel, où on reconstitue des carrières. Alors, ce qu'il faut voir, c'est
Ce système notionnel, il y a beaucoup de questions, il existe dans quelques pays européens. Expliquez-nous précisément de quelle façon ça fonctionne et en quoi ça peut être un élément de justice.
Si vous voulez, on reconstitue les carrières de chaque personne et en fonction de ses droits notionnels, on sert les pensions de retraite.
Donc, mais ça veut dire quoi, droit notionnel ?
Ça veut dire que au fur et à mesure de votre carrière, vous avez un certain nombre de droits, y compris soit parce que vous travaillez, soit parce qu'effectivement vous avez eu des enfants, soit parce que vous avez été au chômage et que pour chacune de ces positions, ça vous donne un certain nombre de droits à partir desquels on reconstitue les carrières. Ce qui est important de regarder, c'est que, par exemple, dans un système par points n'exclut pas la solidarité. Autrement dit, si vous êtes, par exemple, une mère de famille, on peut vous attribuer des points parce que vous avez eu des enfants. Si vous êtes au chômage, on peut vous attribuer des points parce que vous avez eu des enfants. Si vous êtes, justement, ce que vous disiez, dans une profession particulièrement pénible, on peut vous attribuer des points supplémentaires. Si vous êtes dans des professions à risque, policiers, militaires, on peut vous donner des points en plus. Donc, la solidarité n'est pas exclue par ces systèmes. Mais il est vrai que ils fonctionnent sur une base qui est quand même plus individuelle, puisque dans un cas comme dans l'autre, on va avoir un compte individuel, soit le compte des points, soit le compte notionnel.
Alors sur ce dossier du compte notionnel, Éric Heyer, des auditeurs, nous pose des questions. Est-ce que l'espérance de vie entre en question dans cette retraite à compte notionnel ?
Ben oui, non, mais c'est ça qui fait la grande différence entre le à point et le notionnel, c'est que justement, ce taux de conversion tient compte de l'espérance de vie, mais de l'espérance de vie de la cohorte qui arrive au moment. Et pas du tout, est-ce que vous êtes un ouvrier ou est-ce que vous êtes un cadre ? Et c'est là où ce n'est pas juste. Parce que justement, voilà, c'est les générations qui arrivent à la retraite, que vous ayez été ouvrier ou cadre, vous allez avoir la même espérance de vie théorique, donc dans ce compte notionnel, alors qu'on sait très bien que l'espérance de vie est complètement différente entre ces deux types de personnes. Donc c'est en cela où c'est pas du tout juste. Alors c'est ça qui est suédois, hein. C'est les Suédois qui ont mis en place ce compte notionnel et pas le compte à points. Alors ça se ressemble et généralement c'est calculé en fonction donc de l'espérance de vie, c'est de la croissance économique et c'est fait en sorte que en gros ce taux de conversion assure l'équilibre du système. Et donc, il ne peut pas y avoir de déficit normalement dans ces comptes notionnels. Sauf que, comme on a bien vu en Suède, lorsqu'ils l'ont mis en application, suite à la crise économique, pour équilibrer le système, ils auraient dû baisser les pensions de façon considérable et ils ne l'ont pas fait. Parce qu'on ne peut pas, avec ces comptes-là, à un moment, il y a bien le politique qui reprend la main en disant « Non, on ne peut pas faire subir parce que c'est quand même quelque chose de pas de chance d'arriver au moment où il y a la plus grande crise. Ce n'est pas les Suédois qui ont provoqué cette crise-là et donc ce n'est pas aux retraités à payer. » Et donc, ils ont admis des déficits. Et donc, vous voyez que cette idée de avec un compte notionnel, forcément, il n'y aura pas de déficit. L'exemple suédois, c'est le seul à l'avoir mis en application, montre bien que non, il peut y avoir des déficits. Et donc, c'est assumé par le politique de ce point de vue-là.
Commentaire d'auditeur, la retraite à points existe déjà dans les régimes Agirc et Arco, qui versent la part complémentaire. Donc, ce n'est pas un système nouveau, on ne part pas dans l'inconnu. Nicolas Bavrez.
Non, ça existe déjà. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux étages. L'étage de la retraite par répartition générale et puis ensuite le système par points, qui théoriquement est un système effectivement équilibré. Pour être d'ailleurs tout à fait complet, l'idée telle qu'on la comprend, c'est que d'un côté, on irait vers un système universel, mais qui devra de toute manière prendre en compte sans doute une part de spécificité des carrières. Si on prend l'exemple des militaires, c'est vrai que c'est assez difficile de traiter de la même manière des gens qui, dans leur majorité, vont arrêter leur carrière professionnelle après 15 ou 20 ans, parce que c'est difficile d'être, en tout cas militaire du carburant à 60 ans, et puis des carrières qui n'ont rien à voir. Donc il y aura sans doute un deuxième étage, et il y a un troisième étage qui est un peu prévu, qui est le développement d'une assurance retraite qui serait plus individuelle, avec le développement de produits d'assurance vie qui seraient orientés vers la retraite, et là qui serait une partie de prévoyance purement individuelle. Afin de mieux prendre en compte, parce que c'est quand même un élément qu'il faut indiquer, qui est très important, c'est qu'un système de retraite, il est quand même toujours relié à une économie et à une société, à un marché du travail. Donc aujourd'hui, des gens qui alternent des phases de travail et puis de non-travail, soit parce qu'ils se forment, soit parce qu'ils sont au chômage, soit parce qu'ils font autre chose, et puis la société dont les demandes, elles aussi, changent. Et donc, il faut bien réfléchir à ces éléments, parce que la retraite, comme on l'a dit, ce sont des politiques publiques de très long terme. Elles jouent beaucoup sur les décisions des individus, elles jouent sur le cycle de vie, elles jouent sur le pacte citoyen.
Philippe est en Charente et nous écoute et veut participer à l'émission. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tout le monde. Vous avez un peu soulevé le problème tout à l'heure. Vous avez parlé de l'espérance de vie et c'était un petit peu cette injustice qui me titille, dirons-nous, parce que en fait, on parle d'injustice au niveau de différentes caisses de retraite et tout, et ça c'est, comme l'a dit le premier auditeur, c'est le nivellement par le bas qui prime toujours. Moi je pense que, par exemple, une chose qu'on sait tous, c'est que les cadres supérieurs, enfin dits supérieurs, vivent plus longtemps, et en moyenne, d'après des statistiques de la caisse primaire d'assurance maladie, on sait que c'est 6 ou 7 ans, et les ouvriers, bon, vivent 6 ou 7 ans de moins. Donc quand ils prennent leur retraite, on peut dire que le brave gars qui a été ouvrier toute sa vie va mourir à peu près 6 ou 7 ans avant le cadre supérieur. Donc comme ils sont plus nombreux, les ouvriers et puis les professions dites pénibles, on peut imaginer qu'ils payent aussi une partie de la retraite de ceux qui vont vivre plus longtemps. Est-ce que là, quelque part, il n'y a pas quelque chose d'un petit peu gênant ?
Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE.
Moi, je suis complètement d'accord avec cette analyse. C'est pour ça que, encore une fois, l'équité ou la justice est assez compliquée à mettre en œuvre. Cette question à la fois d'effectivement d'espérance de vie qui est différente selon le métier que l'on a fait doit être pris en compte si on veut être plus juste. Et donc, dans les comptes notionnels, ce n'est pas pris en compte. Et donc, ça, c'est une injustice qui est assez flagrante. Et puis, par ailleurs, une autre injustice. Alors, je remets un peu en avant le compte par annuité que l'on a. Vous voyez, l'annuité, ça veut dire quoi ? Le grand changement. C'est-à-dire qu'on doit travailler. Alors, dans la fonction publique, c'est comptabilisé sur les 6. On regarde les six derniers mois de votre salaire, alors que dans le privé, c'est sur les 20 dernières années. Mais vous voyez que dans le compte à points, au notionnel, c'est tout au long de votre vie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que globalement, quelqu'un qui aura commencé tout petit, tout en bas, et qui aura eu une carrière ascendante, vous voyez, dans les comptes à points, il va y perdre énormément. Et donc, on valorise dans les comptes à points ou notionnels des carrières qui sont un peu monotones et qui sont dans le haut. Et donc, là aussi, ça ne valorise pas tellement les ouvriers qui auraient pu commencer bas, mais qui, par la force de leur travail et leur volonté, ont réussi à avoir une carrière un peu plus longue. Non, on va encore les pénaliser. On va pénaliser les femmes qui, généralement les femmes qui ont une carrière qui est un peu hachée, qui sont à temps partiel. Donc, attention, c'est pas forcément très juste. C'est pour ça qu'il y aura des discussions, à mon avis, très longues. Et je pense qu'on jette un peu vite ce compte par annuité, une régime général, qui est un système qui n'est pas si mauvais que cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'unifier. C'est-à-dire que, parce que plus de transparence et plus de mobilité entre la fonction publique et la fonction privée, ça passe par cette unification. Mais considérer que l'annuité est forcément plus mauvaise que les comptes à points ou notionnels, ça reste vraiment à montrer et ça reste dans les discussions d'aujourd'hui.
Sébastien est à Clairvaux. Bonsoir Sébastien.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Eh ben, au niveau de la justice, moi je la vois pas arriver parce que ça fait 25 ans qu'on nous explique que les comptes des différents régimes de retraite sont à l'agonie, ce qui n'est pas le cas. Et ça fait 15 ans qu'on essaye, par plein de coups de butoir, de faire venir le système par répartition à un système de capitalisation. Et que ce soit à point ou notionnel, on va être sur du système par capitalisation. Et qui va gérer ça ? De nouveau des banques, des assurances qui vont encore taper dans le pactole et réussir à incrémenter leur gros bénéfice, quoi.
sur ce point.
Alors, ce qui
Monsieur
est,
Babrez, Nicolas Babrez.
Ce qui est prévu, c'est pas du tout le passage à un régime de capitalisation. Les régimes par points ou les régimes notionnels sont des régimes de répartition. Donc ça, c'est tout à fait clair. La difficulté qui se présente avec le système français, il y a d'abord quand même beaucoup de choses positives. On a parlé d'espérance de vie. C'est vrai que les inégalités sont importantes, mais l'espérance de vie continue à augmenter d'un mois et demi par an, ce qui est quand même tout à fait positif. C'est 85,3 ans pour les femmes, c'est 79,5 ans pour les hommes, et ça tend plutôt à se réduire un peu. Donc ça, c'est bien. Le problème, ce que je disais, c'est la répartition entre les cotisants et les retraités. Parce que l'évolution démographique fait que si on ne bouge pas le système, eh bien le niveau de vie des retraites va diminuer de 20% d'ici à 2060, ce qui est quand même extrêmement, spectaculaire. Donc ça justifie qu'on s'interroge quand même sur ces évolutions. L'autre chose qui est importante, c'est que par le fait qu'on a cette quarantaine de régimes, aujourd'hui en moyenne, quand quelqu'un prend sa retraite, il a cotisé à 3,1 régimes. Donc c'est quand même assez complexe parce qu'il faut qu'il liquide sa retraite auprès de trois caisses. Et donc si on peut favoriser ça dans un système où les gens sont de plus en plus mobiles, ça a également du sens. Donc, mais il faut être clair, hein, pour l'instant, le projet, c'est pas du tout de passer un système de capitalisation.
Sur ce point, Éric Heyer, beaucoup de questions d'auditeurs qui nous disent finalement, on a peut-être le sentiment qu'à travers cette réforme, justement, on veut essayer de développer la retraite par capitalisation, c'est-à-dire avoir recours à un assureur privé qui vous donne un complément de retraite.
Non, c'est pas du tout la nature de cette réforme. Peut-être qu'on y viendra, mais en tout cas,
comme là, ça se fait par exemple aux États-Unis.
Oui, mais aujourd'hui, en tout cas, la volonté du président Emmanuel Macron n'est pas du tout. Il a réaffirmé. C'est resté par répartition, mais c'est au lieu de le passer par annuité comme c'était le cas aujourd'hui, c'est de le faire soit par points, soit notionnel, et que ça soit uniforme. C'était l'universalité de ce système. Donc il n'y a pas de capitalisation pour l'instant. On va rester par répartition, et ce que j'aimerais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit votre auditeur, c'est que globalement, les réformes ont été menées depuis 93, et effectivement, le système tient à peu près d'un point de vue financier, mais au prix, et ça a été rappelé par Nicolas Babrez, par une paupérisation à venir des retraités, c'est-à-dire que aujourd'hui, ça peut paraître un peu complexe, mais le fait d'avoir indexé les pensions non plus sur l'accroissement de la productivité, mais des prix, va faire que, effectivement, en 2050, il devrait y avoir une baisse du pouvoir d'achat des retraités d'environ 20%, entre 16 et 28% selon les cas de figure. Donc ça veut bien dire que le système est viable à long terme, c'est ce que nous dit aussi Eurostat, mais au prix d'une paupérisation des retraités, donc qui est déjà en place. Est-ce que le nouveau système va aggraver cela, c'est-à-dire va augmenter cette paupérisation ou pas, c'est ça l'enjeu en fait aussi de ce type de réforme.
Je vous lis des courriels. Michel, la question est très simple. L'âge légal de départ à la retraite fait-il partie de la réforme, Nicolas Babrez?
Alors ça fait partie.
On est à 62 ans actuellement.
Oui. Voilà. C'est 62 ans aujourd'hui. On nous a annoncé 6 chantiers. Il y a un des chantiers qui est consacré aux conditions de départ. Donc dans les conditions de départ, il y a évidemment l'âge légal, et il faut jamais oublier que l'autre condition très importante avec l'âge légal, c'est la durée de cotisation. Et très clairement, normalement, ça devrait être discuté dans cette... Donc ça, c'est prévu à partir de l'automne 2018.
Un courriel de Thierry, professeur des écoles. J'ai 47 ans, recruté à Bac+5, enseignant depuis 20 ans. Je touche 2000 euros par mois. J'ai pu accéder à une application officielle calculant ma retraite. Si je pars à 60 ans, je toucherai 1200 euros brut. En partant à 67 ans, je toucherai au maximum 1500 euros. 67 ans dans une classe de 30 élèves, clairement c'est impossible. Est-ce que cette réforme va améliorer mes chiffres de retraite? Éric Heyer.
Sans doute pas. Sans doute pas. Enfin, encore une fois, il faut attendre la fin. Mais vous voyez, encore une fois, comment on va aligner le public, le privé, ça va être assez compliqué. On a l'impression que dans le public, ce qui est en jeu, c'est est-ce que les primes vont être intégrées ou non dans le système. Mais vous voyez, un professeur n'a pas de prime. Et donc, j'ai pas l'impression que au contraire, le professeur y gagne. Et donc, même, je crois que dans son calcul, malheureusement, il a fait une petite erreur. C'est qu'à 60 ans, à mon avis, il ne pourra pas partir. Parce qu'effectivement, à 47 ans, ça sera à 62 ans qu'il pourra commencer à prendre sa retraite. Donc, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, non, je crois que son système, en tout cas, ce qui peut être amélioré, c'est des passerelles entre le public et le privé. Et donc, le fait que cet auditeur change au cours du temps. Et ça sera bien plus simple pour recalculer sa retraite lorsqu'il passera dans le privé. Mais malheureusement, s'il ne change pas, je ne crois pas que ces conditions changent. Et même elle devrait être plutôt dégradée.
Nicolas Bavrez, je rappelle, économiste, essayiste, invité ce soir du Téléphone Sonne.
Rapidement, la remarque de cet auditeur est très intéressante. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la fameuse Suède, en même temps qu'on est passé à ce système de retraite universel, les Suédois ont beaucoup travaillé sur la manière de faire en sorte que les gens puissent travailler plus longtemps, puisqu'on a aussi élevé l'âge de départ à la retraite. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que la remarque selon laquelle, à 67 ans, on n'est peut-être pas vraiment bien armé pour être encore devant une classe, elle est tout à fait juste. Donc, si on veut augmenter l'âge de départ à la retraite, il faut réfléchir sur la manière dont on travaille à 65 ans, qui n'est pas la même manière, ni le même travail que quand on a 45 ou quand on a 25 ans.
Pierre nous appelle d'un endroit qui s'appelle La Rivière. Il va nous expliquer, ça se trouve à quel endroit. Pierre, vous êtes là ?
Est-ce Allô ?
Que Pierre est en ligne ?
Oui, je ne sais pas si c'est moi.
Oui, vous êtes sur l'antenne et sur mon ordinateur.
Merci de prendre ma question. Oui. Moi, j'avais juste une question parce que dans les régimes spéciaux, on n'entend jamais évoquer celui des militaires, des gendarmes, des policiers qui peuvent prendre leur retraite extrêmement tôt, dans les 40 et quelques années, et qui souvent, ou même pratiquement toujours, cumulent leur retraite avec des emplois déclarés ou non, alors qu'ils pourraient très bien terminer leur carrière officiellement avec des tâches administratives dans leur domaine ou dans un autre domaine de la fonction publique.
Éric Ayer.
Non, mais enfin, il est normal que certains métiers on parte un peu plus tôt, mais il faut aussi lever tout le type de fantasmes. Ils ne partent pas avec une grosse retraite. C'est une petite retraite qui est en complément. Et d'ailleurs, voyez, on parlait du cas suédois. Quand on compare le cas suédois avec le cas français, mettons, le pouvoir d'achat d'un Français à la retraite est 25% au-dessus du retraité suédois, parce que dans ce type de retraite, les pensions sont bien plus basses. Et donc, c'est ça qui incite aussi les retraités suédois à travailler en même temps que d'être à la retraite. Le taux de temps partiel des retraités est au-dessus de 30% en Suède, alors qu'il est à peine de moins de 20% en France. Donc il y a bien cette idée que, attention, on ne vit pas forcément bien de sa retraite, et donc ça incite à continuer à travailler, et donc à réfléchir à un métier pour les seniors, entre guillemets, et ça, c'est pas si évident d'avoir ça en tête en France.
Nicolas Bavrez.
Pour les militaires, il y a quand même deux raisons objectives. D'abord, c'est un vrai métier à risque, comme d'une certaine manière les policiers. Et ensuite, il y a des raisons objectives. On ne peut pas être pilote de chasse éternellement. On ne peut pas être commando ou membre des forces spéciales à partir d'un certain âge. Et donc, on ne va pas obliger tous ces gens à devenir, entre guillemets, des administratifs. Il vaut beaucoup mieux qu'ils ont des compétences qui les mettent au service de la société, du secteur privé ou d'ailleurs parfois d'autres administrations.
On va aller en Auvergne où se trouve Aloïs. Bonjour Aloïs, bonsoir.
Bonsoir, merci de prendre ma question.
Allez-y.
En fait, ma réflexion, c'est que je considère que chaque personne contribue à la société, peu importe son travail, un éboueur, un politicien, un gendarme, tout ce qu'on veut. Pourrait-on imaginer un système, un barème en fonction du nombre de trimestres travaillés dans sa carrière, et tous les retraités auraient ainsi le même revenu? Par exemple, une personne ayant un salaire... une personne ayant travaillé 30 trimestres toucherait 30 fois le taux du trimestre par mois. Donc peu importe la profession, et je considère qu'une personne qui aurait touché par exemple 5 000, 8 000 euros par mois peut maintenir son train de vie s'il a intelligemment géré ses revenus. Alors qu'un paysan, par exemple, alors qu'il nourrit la France toute sa vie, pourrait vivre, alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas.
Éric Ayer.
Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Si c'était donc il y a plus du tout le revenu qui entre en compte. C'est voilà. Tout le monde a la même retraite. Il suffit d'avoir cotisé.
C'est un revenu universel. C'est la pension universelle.
Voilà. On peut toujours tout imaginer, mais on voit bien que effectivement on essaie de maintenir le pouvoir d'achat des retraités à un niveau qui est proche du leur. Enfin, en tout cas de ce qu'il a eu pendant la vie active. En tout cas, c'est pas la proposition qui devrait être retenue. Et donc c'est des propositions qui visent à plutôt harmoniser. La façon de comptabiliser, mais bien entendu que le salaire est important, et c'est là où ça va être compliqué, parce que souvent les régimes spéciaux, et lorsqu'on est un petit avantage à la retraite, c'est un acquis que l'on a eu en échange de sans doute des salaires qui ont été moins élevés dans le type de métier. Donc vous voyez, on peut pas enlever un acquis sans changer le reste. C'est pour ça que il me semble que cette réforme là dans un premier temps ne va pas déboucher sur des économies, parce que il va falloir compenser la perte de ses acquis par des salaires un peu plus élevés, parce que ça faisait partie du contrat, en tout cas du contrat énoncé au début.
Un appel de Thierry à Toulouse. Bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel.
Bienvenue.
Je suis gestionnaire RH dans la fonction publique, donc je connais un petit peu les régimes de retraite. Alors dans la fonction publique, déjà, on dit qu'on perçoit 75% du traitement des 6 derniers mois. En fait, dans les faits, peu de fonctionnaires l'atteignent, puisque ce pourcentage est bien entendu ajusté en fonction des années d'exercice. Les primes ne sont pas incluses dans le calcul, et l'État, en tant qu'employeur, ne cotise pas pour une retraite complémentaire, contrairement aux employeurs privés. Oui. Alors, que fait l'État en qualité d'employeur? Et il n'y a pas non plus de retraite surcomplémentaire, comme c'est souvent le cas dans les grands groupes du privé. Voilà. Donc, quand on va comparer les régimes, il faut mettre tout sur la table. Et ensuite, j'aimerais que, dans le cadre de cette réforme, on aborde aussi le sujet de la carrière des femmes qui ont des carrières interrompues ou souvent à temps partiel pour élever leurs enfants. Et je rappelle que les enfants, ce sont nos futurs cotisants de demain. Alors, l'application d'un régime universel, oui, ça serait quelque chose de positif. Déjà, ça simplifierait les choses, puisque vous avez dit que chaque retraité a en moyenne un peu plus de 3 régimes à liquider, donc on pourrait faire masse de toutes les périodes et de tous les régimes. Voilà. Et il faudra peut-être préserver notre régime de répartition qui est témoin d'une solidarité entre les générations. Et donc j'espère que dans le cadre de cette réforme, ce système sera préservé.
Voilà. Nicolas Bavrez, merci Thierry.
Très vite, comme on l'a dit, le but, l'objectif, la raison de cette réforme, ça n'est pas le régime de la fonction publique. De même que c'est pas le régime de la SNCF ou le régime des IEG d'EDF. C'est l'ensemble du système avec l'idée d'être plus soutenable et plus transparent. Deuxièmement, personne ne parle pour l'instant de sortir de la répartition. Troisièmement, il y a un des ateliers qui doit se pencher justement sur l'égalité entre les hommes et les femmes à partir de l'automne prochain. Donc on verra ce qu'il en advient. Il est bien vrai qu'il faut tout mettre sur la table. Ce qui a été à juste titre souligné par Éric Ayer, c'est que le fait de ça risque quand même de provoquer des transferts très importants. Donc de toute façon, c'est une évolution qui ne sera que progressive et qui, en tout cas, ne sera certainement pas l'idée d'avoir un régime universel peut-être, mais certainement pas d'avoir un régime unique.
Beaucoup de questions. Cette réforme, si on arrive à un accord, elle entrera en vigueur en 2019 ou elle entrera en vigueur très progressivement, Éric Ayer?
Non, elle ne peut être que progressive. Vous voyez que reconstituer des carrières, etc., ça va être impossible. Encore une fois, le cas suédois est toujours là pour nous rappeler, puisqu'ils ont commencé à y réfléchir en 1980, au début des années 80, et puis ils l'ont mis en application en 2001. Donc vous voyez que il y a le temps de réflexion et le temps de mise en application. C'est normal qu'il y ait un temps à la fois pour y réfléchir et un temps pour de transition pour passer d'un système à l'autre. Ça sera pas simple et donc ça sera long à mettre en œuvre.
Ce qu'il faut rappeler, c'est quand même 14% du PIB. Donc, si on fait des énormes transferts sur 14% du PIB, regardez les réactions sur la CSG, sur les retraités. C'est un tout petit morceau de PIB. C'est pas 14% du PIB.
Un autre appel, Ben à Puteaux. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci de prendre ma question. Écoutez, moi j'ai un frère qui vit en Suède, il est prof, il était prof, il est retraité, mais lui il dit que sa retraite, ça joue du yo-yo. Vous avez dit que vous avez finalement auréolé ce système de retraite, ben, c'est coté en bourse, donc il y a des mois où c'est bas, il y a des mois où c'est plus haut. Alors je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une histoire, effectivement, comme disait un autre auditeur, de capitalisation que vous oubliez de dire?
Non, mais sur, c'est pas coté en bourse, parce que pour le coup, la bourse, c'est la capitalisation. Mais il est bien vrai ce qui a été dit, c'est que si on est le problème du système par point ou du système notionnel, c'est qu'il est indexé sur la croissance économique. Donc si on est dans l'année 2009, après un grand krach boursier, la croissance économique, c'est pas la bourse. La bourse, elle fait moins 20 ou moins 30, mais il n'empêche que l'économie, elle fait moins 4 jusqu'à moins 6 dans certains pays développés. Et donc, si on en reste simplement à la logique du point ou du compte notionnel, théoriquement, les pensions baissent de 4 à 6%, ce qui, évidemment, est de fait un gros choc.
Il y a beaucoup de questions qui reviennent sur le site à propos du président de la République, des ministres, des députés. Je vous lis ce courriel de Jean-Pierre. 1 euro cotisé donnera les mêmes droits à chacun. Est-ce que ce sera valable pour les parlementaires, ministres et présidents? Et des questions à propos du statut du chef de l'État, des députés et des sénateurs dans cette réforme des retraites. Éric Heyer.
Je pense que cette phrase, enfin, je la comprends, mais elle est assez maladroite, un euro cotisé d'ouvrir des mêmes droits. Parce qu'on l'a bien dit qu'effectivement, ça veut dire que où qu'on soit, ça effectivement ouvrira de même droit, mais après on va mettre tellement de différences et on va dire, tiens, mais pour une femme, ben, si elle a eu 2 enfants, ça lui ouvre un peu plus de trimestres qu'à un homme, et ensuite la pénibilité, et ensuite pourquoi pas pour les militaires, pour les policiers. Donc il y aura beaucoup de cas un peu isolés, et donc pour qu'un euro cotisé ne correspondra pas finalement au même droit, et donc alors ensuite ils pourront peut-être l'ajouter sur les parlementaires ou essayer de le faire. Donc c'est vraiment à la fin du bal où on voit finalement combien on paye les musiciens. Donc mais globalement, on ne pourra pas dire qu'un euro cotisé ouvrira le même droit.
Nicolas Babrez.
C'est très symbolique. Les députés ont abandonné le régime spécial. Ouais. Le Sénat, non. Mais c'est vrai que c'est à la fois très symbolique et en même temps, ça pèse très peu, finalement, par rapport aux problèmes économiques de fond. Mais, en tout cas, si on doit passer à un système théoriquement universel, il va de soi qu'il doit englober les parlementaires.
Dernier appel, Régine, à Brest. Bonsoir, Régine.
Oui, bonsoir.
Merci. Soyez pas trop longue.
Non, non, juste.
Parce qu'on est en retard, on est presque à la fin.
Je rebondis sur ce qu'a dit votre intervenant. Oui. Un mari qui a été 20 ans cadre supérieur dans le privé, qui ensuite a été devenu professeur en enseignement technologique pendant près de 19 ans et touche 1400 euros de retraite parce qu'il a perdu sur les deux tableaux. Donc, je souhaiterais que la nouvelle réforme permette le passage du public au privé et réciproquement de façon correcte, parce que là, il a perdu vraiment sur les deux niveaux.
Éric Heyer.
Alors normalement, alors effectivement, on y perd beaucoup quand on fait l'inverse, c'est-à-dire que quand on commence dans le public et qu'on finit dans le privé, c'est là où c'est le plus avantageux. Quand on fait l'inverse, normalement on y gagne, sauf que là, effectivement, les revenus ont dû bien plus chuter à la fin, parce qu'un professeur gagne beaucoup moins qu'un cadre. Mais effectivement, une des idées de cette réforme, c'est de faire en sorte que quel que soit votre parcours, on compte de la même manière, que vous ayez commencé dans le public et fini dans le privé, ou commencé dans le privé et fini dans le public.
Voilà. Merci à nos invités Éric Heyer et Nicolas Bavray. C'était le Téléphone Sonne. À demain soir.